Paula,
Vin
et compagnie.
Une émission où l'on parle de polar et de vin en bonne compagnie.
Proposée par l'association Culture Art Polar Sud-Aveyron.
Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Il va avoir un réveil pénible.
Bonjour lectrices et lecteurs, auditrices et auditeurs, dans ce 10e chapitre de ce tome 3 de Polar Vin et Compagnie, consacré, comme tous les PVC de fin de mois, au prix Robin Cook 2026, avec Florent qui sera aujourd'hui dans le rôle de double face et qui fera le bon et le méchant flic. Michel, une voix féminine qui sera notre Scheherazade. Et Nico, bien sûr, le pro de la radio, ça fait un peu pub, hein.
Ouais, Nico, le pro de la radio.
Il en faut.
Voilà, alors donc, aujourd'hui, on consacre ce numéro à un roman qui a été sélectionné pour le prix Robin Cook 2026, toujours par ordre alphabétique, donc, après Makodou Atolodé, c'est Mathilde Beausseau, avec un B, pour son livre « Les sols ». On s'est aperçu d'une chose par rapport à l'épisode précédent, enfin l'épisode sur Makodou Atolodé, c'est que comme ce sont Mathilde Beausseau et Makodou Atolodé, deux auteurs que nous avions déjà interviewés parce que notre digger Florent, notre chercheur de premier roman, les avait identifiés bien avant tout le monde.
Ouais, largement avant tout le monde.
Oh. Et on s'est aperçu d'une certaine injustice, puisqu'en fait, on ne les a pas présentés et on n'a pas... si, on a lu un extrait de leur roman, mais par contre, on n'a pas résumé leur roman. Donc, pour Makodou, c'est un petit peu tard. L'émission a été déjà diffusée et on peut la retrouver en podcast. Par contre, pour l'émission d'aujourd'hui, pour Mathilde Beausseau, on va faire un petit effort. Et en termes de... C'est pour ça que je parlais tout à l'heure du bon flic. En termes de présentation de Mathilde Beausseau, on vous repasse l'extrait de l'interview que tu avais faite en juin dernier de Mathilde Beausseau.
Je vais vous présenter, entre guillemets, Mathilde Beausseau, mais alors très rapidement. Mm-hmm. Vous êtes bretonne de naissance, vous avez passé votre enfance au cœur d'un territoire rural, proche mm-hmm. de Lamballe, hein, Côte d'Armor,
oui.
dans la ferme de vos parents. Et vous
Absolument.
Êtes, voilà, vous êtes aujourd'hui professeur de français dans des collèges de ZEP à Angers.
Oui.
Et vous êtes passé avant Angers dans le 9-3.
Voilà. Absolument.
Ok, donc je ne me suis pas trompé.
Pas du tout.
Voilà, donc maintenant vous connaîtrez mieux Mathilde Beausseau. Alors si vous voulez la connaître encore mieux, écoutez l'interview qui avait été faite alors qu'on ne savait pas qu'elle serait sélectionnée pour ce prix Robin Cook. C'est le 10e chapitre du tome 2 de Polar Vin et Compagnie qui avait été diffusé le 27 juin 2025, dont vous pouvez le retrouver effectivement en podcast sur radiolarzac.org. C'est quelqu'un que tu as, comment dire, identifié comme une valeur sûre, valeur montante du polar, Florent, et tu la suis et tu as plein de choses à nous dire sur elle maintenant.
Plein de choses, je ne sais pas.
Concernant la littérature.
En tout cas, absolument. Première chose, Mathilde Beausseau a été couronnée du Grand Prix de littérature policière 2025. Elle a eu bonne presse, suffisamment bonne presse pour éditer un deuxième roman qui devrait sortir incessamment sous peu et qu'on lira avec plaisir.
Et qui s'appelle
Colline, chez le même éditeur. Au seuil, c'est la collection Cadre Noir.
Pour la petite histoire, tu nous rappelles celui qui a obtenu le Grand Prix littéraire de l'année précédente ?
Alors, le Grand Prix de littérature policière 2024, c'était Bordassar pour la disparition de Monsieur Snoot.
Tiens.
Comme par hasard, un prix qui, une œuvre qui avait été sélectionnée et qui avait obtenu le prix Robin Cook.
Voilà. Bon. Et on a dit qu'on n'influençait pas les lecteurs et les lectrices.
Ben, c'est un fait.
Voilà, donc on a entendu le bon flic, et maintenant on va entendre le mauvais flic, l'inspecteur Derif.
L'interrogatoire de l'inspecteur Derif.
À ta place, moi, je prierai pour que ça finisse vite.
Bonjour madame, vous êtes convoquée ce jour car on vous soupçonne d'avoir commis un premier polar nommé Les Saules aux éditions du Seuil Collection Noire. Je vais donc vous poser quelques questions auxquelles vous pouvez répondre ou décider de garder le silence. Est-ce que tout vous semble suffisamment clair ?
Oui, c'est parfaitement clair. Bonjour.
Très bien, bonjour. Alors, nom, prénom, lieu de résidence et profession.
Alors, je m'appelle Mathilde Bosso, j'habite à côté d'Angers et je suis enseignante de français en collège de réseau d'éducation prioritaire.
Quelles raisons vous ont poussé à commettre Les Saules avec la complicité des éditions du Seuil ? Un délit qui, je vous le rappelle, pourrait vous voir condamné à recevoir le prix Robin Cook. Alors, quelles raisons ?
Alors, quelle raison ? C'est un peu nébuleux et flottant. C'est sans doute l'envie de tenir les rênes tout en perdant les pédales. Je pense que c'est un peu ça l'écriture. C'est l'envie d'aller farfouiller dans la nostalgie de l'enfance. Peut-être pas de régler 2-3 comptes, mais en tout cas de pouvoir faire affleurer comme ça à la surface 2-3 phrases entendues et mal digérées.
D'accord, donc vous parlez en plus de règlement de compte. Très bien.
C'est le propre du polar quand même.
C'est pas faux. Dites-moi, est-ce que vous pouvez me donner 5 mots-clés qui résument l'esprit de Dans les Saules ?
Alors, 5 mots-clés. Moi je dirais tragédie, parce que c'est la mort d'une jeune femme qui avait tout pour plaire, qui avait... un ciel ouvert pour vivre sa vie et qui a été assassinée. Donc, tragédie, ce sera le premier. Peut-être un féminisme qui pulse, même si on est dans les années 80. Je pense qu'il est quand même latent parce que il est vivant chez moi. Je parlerai peut-être aussi de féminicide, qui va pas avec, mais ça entre en écho. Je parlerai aussi de l'enfance avec le personnage de Marguerite. Et puis, puisqu'il en faut un cinquième, j'irai peut-être chercher du côté des paysans et de la terre, à la fois nourricière, meurtrie et ensauvagée. Voilà.
D'accord. Tragédie, féminisme, féminicide, enfance, paysan. Est-ce que parmi ces 5 thèmes, il y en a un que vous voudriez justifier plus que d'autres ?
Peut-être le mot tragédie, parce que ça colle pas forcément avec l'idée peut-être plus consensuelle du polar, mais quand j'écris Les Saules, je suis habitée par cette idée de tragédie, c'est-à-dire que, bon voilà, on est face à une mort inéluctable qu'on pourra pas effacer, et je vais faire défiler tout un petit microcosme dans cette petite gendarmerie locale, dans un coin de Bretagne oublié dans lequel j'habitais. Et finalement, la parole des flics est capturée. Et donc, quand on n'a pas la parole au théâtre, dans la tragédie, on n'a pas beaucoup de pouvoir. Et donc, c'est la rumeur, en fait, qui va faire bombance dans cette histoire-là. Et le lecteur va bien avoir du mal à démêler les chevaux de la vérité.
J'aurais pu retenir, moi, le mot de paysan. Qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus ?
Le monde paysan, c'est le monde d'où je viens, je crois, même s'il est protéiforme, en mutation. Moi, mes grands-parents étaient paysans, mes parents étaient paysans. Je pense qu'ils sont devenus ensuite agriculteurs. Les mots ont changé, mais je viens aussi d'un pays. Je viens de ces terres-là qui m'ont vu grandir. Je suis même pas née dans un hôpital. Moi, j'étais pressée d'arriver dans la vie, et donc j'ai même pas pu rejoindre la ville la plus proche. Donc c'est un mot qui me va bien, le mot de paysan, qui aujourd'hui est peut-être un peu plus désuet, qu'on essaye peut-être de regagner en essayant de nourrir l'humanité, ce qui est pas forcément évident. Enfin voilà, ça sous-tend pas mal de questions, pas mal de problèmes, hein, pas mal d'antagonismes et de passions.
Et dans ce polar, si vous deviez faire un choix, quel personnage sauveriez-vous envers et contre tout ?
Ah, je sauve Marguerite. Parce que je pense que peut-être que j'égratigne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'univers dans les saules, mais avec Victor, son petit compagnon, Marguerite, elle a 8 ans, c'est la mal poussée, la mal fagotée, la mal aimée, elle est harcelée aussi à l'école, donc elle subit beaucoup, et pourtant c'est sans doute l'un des personnages les plus aimables, je crois, de mon roman, même si elle pue, même si elle parle très très peu, Marguerite a toutes les clés, et c'est peut-être elle et ses paroles si rares qui sauvent la vérité.
Quel personnage élimineriez-vous sans aucun état d'âme ?
Oh, bah si, quand même, parce que je me suis donné du mal à les construire. Donc un que je sacrifie, bah peut-être Arlette, parce que ironiquement Arlette c'est le flic qui vient de la ville, c'est le tailleur gris hyper strict, et elle est très vite condamnée à patauger dans ses interrogatoires et avoir bien du mal à démêler le vrai du faux. Et donc très vite sa parole elle aussi est sacrifiée, son rôle est réduit à la portion congrue, alors que dans les polars souvent quand même le focus peut être davantage mis sur les gendarmes ou sur les policiers. Donc voilà, je choisirais Arlette parce qu'elle vient de la ville et qu'en fait, quand la ville s'invite dans un petit patelin, ça devient compliqué, les langues ne se délient pas si facilement que ça.
Ok, donc c'est le flic que vous élimineriez finalement.
Ouais, l'un des flics, parce que je garde quand même le gendarme André.
Ça va pas arranger votre cas.
Alors, oh tant pis.
Tant pis, ouais. Alors, dernière question qui me taraude. Je voudrais connaître votre conseil vin et musique pour accompagner la lecture de Les Saules.
Un conseil vin et musique pour lire et boire Les Saules. Il faudrait sacrifier une bonne bouteille de vin rouge, parce qu'en ce moment, en plus, il ne fait pas très beau. Donc, il faudrait en acheter une assez bonne. Et en musique... On pourrait écouter du Brel chez ces gens-là, par exemple.
Et le vin rouge,
ça
alors
ça irait plutôt bien.
Bah, soyez plus rouge. Explicite, parce que dans notre beau pays, il y a de quoi
il
faire.
Il faut que je précise. Un chinon, voilà.
D'accord, un chinon. Très bien. Mathilde Bosso, à ce stade de la procédure, nous vous considérons comme simple témoin. Vous êtes donc placé sous le statut d'ORTF, obligation de rester sur le territoire français. Vous devez donc demeurer sur le territoire national et rester joignable jusqu'à la fin du mois de juin, date de remise du prix Robin Cook. Voilà, vous pouvez partir et reprendre votre vie normale.
D'accord, bah je vous remercie.
C'est moi, j'espère que ça n'a pas été trop dur.
Non, ça a été tout à fait indolore.
Voilà, donc c'est l'inspecteur Dérif qui s'est fait éliminer sans remords, puisque Mathilde Bosso a décidé de se séparer de policier qui est en fait une policière. Mais c'est Florent qui revient, le gentil flic, et qui va nous résumer en quelque sorte, puisque c'est une lecture du quatrième de couverture du roman, pour que nos auditeurs et auditrices aient une idée de ce qu'on trouve dans cette histoire.
Allongé au bord de la rivière, caché par les saules pleureurs, Marie, 17 ans, semble paisible, endormie, ce que démentent les marques sombres sur son cou. Sa mort brutale ébranle toute la communauté, et surtout Marguerite, une petite fille solitaire que tous croient simple d'esprit. Ses parents, peu enclins à manifester leur affection, travaillent leur terre du matin au soir. Livrée à elle-même, maltraitée à l'école, elle aime se réfugier au bord de la rivière, où elle se sent en sécurité sous les saules. Cette nuit-là, elle a vu quelque chose. Elle voudrait bien aider Marie, la seule qui était gentille avec elle, mais voilà, Marguerite ne parle pas, ou presque jamais. Mutique derrière sa chevelure sale et emmêlée, elle observe l'agitation des adultes qui, gendarmes ou habitants, mènent l'enquête. Mais comment discerner la vérité parmi les rumeurs, les rivalités familiales et les rancœurs tissées de longue date ?
Merci Florent. Michel, je t'ai présenté comme la Scheherazade. Vas-tu obtenir la clémence du prince en nous lisant un extrait de Les Saules de Mathilde Bosseau ?
Je l'espère bien. Alors qu'elle descend de la voiture, Marguerite la détaille de la tête aux pieds. Jeannine est une extraterrestre. Les escarpins aux talons fatigués feront encore quelques saisons. La veste en jean délavée à épaulettes surplombe un fuseau en simili-cuir ventousé à ses jambes. Tata a la classe des danseuses de l'émission de Michel Drucker, ça c'est sûr. Dans les yeux de Marguerite se lit une admiration sans borne. Ça flatte la tante qui lui ébouriffe les cheveux sans trop s'y attarder. Il faut dire que les cheveux de Marguerite cachent un monde qui n'engage pas vraiment à être découvert. Jeannine se fraye un chemin, évitant le chien d'une moue dégoûtée. Elle lance un bonjour d'un air surjoué. « Eh ben, quel comité d'accueil ? On a le comité qu'on mérite !» rétorque le père sans lever les yeux de son journal. Jeannine, qui affiche une bonne humeur à toute épreuve, s'installe autour de la table déjà largement garnie. Marguerite s'assied à côté d'elle et la mitraille du coin de l'œil. « Alors quoi de neuf par ici ?»« Pas grand-chose, » répond l'aîné qui puise dans ses réserves pour amorcer la discussion. « Les Queneau ont eu un petit, le quatrième. Elle va pas être à la noce avec le boulot. Patrick a racheté un champ, celui que Jacques visait, et ça a fait des histoires dans le coin. « Comment ça, des histoires ?» demande Jeannine, en grignotant un gâteau apéritif ramolli du bout des lèvres. « Ben, des histoires, des jalousies. C'est cher, la terre, par ici. »« Et toi, Marguerite, qu'est-ce que tu me racontes, hein ? Les histoires de champs et de cochons, tout ça, ça te passe au-dessus ? Alors l'école, c'est comment ?» Marguerite hausse les épaules et évite le regard de sa tante, de ses yeux noisettes qui déchirent le plafond. Jeannine pose un coude sur la table et soutient son manteau d'une main ouverte et tendue vers la gamine. « T'as rien à me dire ? Rien de rien ? C'est Jeannine. Tu me reconnais, hein ? C'est toi qui m'as délivré du gros chien tout à l'heure. Eh, ça te dit de prendre une bonne douche après manger ? Et coiffer cette tignasse, là ?» Marguerite sourit d'un millimètre et sa tête descend un étage brusque. Elle fixe Jeannine sans déceler les lèvres. Jeannine regarde sa sœur, qui regarde le poulet. « Laisse-la donc tranquille avec toutes tes questions, » donne le père. « Que je la laisse tranquille. »« Oui, toutes tes questions, là, c'est l'Inquisition, ma parole. »« Je lui pose des questions parce que je m'intéresse à ce qu'elle fait, moi. »« Comment ça, moi ?» Le père lève les yeux de son journal par-dessus des lunettes embuées de graisse. « Eh ben, puisque je suis là et que je sens que je ne vais pas salir le carrelage longtemps, » Vous trouvez ça normal, vous, que la gamine a 10 ans ? Hein, t'as bien 10 ans, Marguerite ? Bref, elle a 10 ans, et j'ai pas entendu le son de sa voix depuis... je sais même pas depuis quand. Et Chantal, depuis combien de temps elle parle plus, ta fille ? Et ses cheveux ? Tu as vu ses cheveux, Chantal ? Ils disent rien à l'école ? C'est pas possible de la laisser comme ça. La mère sursaute, prise au piège. Son cœur martèle sa poitrine. On réfrène les émotions ici, on les tient à bonne distance. Et quand il faut ensevelir celles qui salissent ou perturbent, on n'est pas feignant et on creuse profondément leur tombe. Le couteau dont la graisse a passé la garde lui glisse des mains. « T'es venu pour manger avec nous un bout de poulet, pas pour refaire le monde », souffle la mère d'une voix dans laquelle on décèle une once de supplique. « Mais laisse-la donc aller jusqu'au bout !» coupe le père, ragaillardi par l'hostilité naissante. « Qu'est-ce qui te plaît pas encore, Jeannine ? Tu nous honores de ta présence et on devrait te dérouler le tapis rouge ? Tenez ici, tu sais ce qui s'y passe. On sait bien que tu t'en fous. Et c'est pas la peine de t'improviser Mère Teresa avec tout ton attirail, là. » Le père reprend son souffle après un moulinet méprisant du bras. Il soutient le regard halluciné de Jeannine, prête à mordre. « Mais qu'est-ce qui te prend? Cette gosse est muette comme une carpe. Elle ne parle jamais. Je sais pas, moi, faudrait peut-être la montrer à quelqu'un. » « La montrer à quelqu'un? Mais c'est pas une bête de foire. On parle, nous. Ça t'a pas traversé l'esprit que peut-être elle n'était pas à l'aise quand t'étais là? Ah non, madame s'y connaît trop, sans doute. Elle parle quand elle veut, Marguerite. Un point, c'est tout. Et elle a bien raison. Elle parle pas pour rien dire, elle. » Marguerite regarde son père puis sa tante. Elle passe de l'un à l'autre sans comprendre. Elle suce sa manche mécaniquement et le bruit de succion plus sonore à chaque tétée irrite Jeannine. « Ne t'en fais pas, ma chérie, ce n'est pas contre toi. Hein. C'est bête, les adultes. Ça se dispute pour rien. On n'est pas bien malin, hein ?» grimace sa tante. Marguerite sent que si elle parle, elle sauvera le navire de la noyade. Ça tangue dans sa tête et la voile se gonfle dans sa gorge. « J'ai vu Marie dans la coulée. » Les parents s'arrêtent net. Jeannine fronce les sourcils, sans pouvoir retenir une œillade victorieuse qu'elle glisse au père stoïque. « Marie, c'est bien la fille des pharmaciens, c'est ça ?»« Eh ben voilà, elle parle, t'es contente maintenant ?» grogne le père. « Et tu joues avec Marie, c'est ça ? C'est une copine ?»« Non. » « Non quoi ?» l'aide Jeannine. Le père lève les yeux au ciel et mastique un bout de croûte de pain qui résiste à ses molaires. Il torture son journal replié dans sa poigne agacée. « Elle joue pas !» lâche Marguerite d'un air contrit. « Parce qu'elle est trop grande maintenant. Eh oui !» lance Jeannine, soulagée d'entamer un semblant de conversation sans animosité. « Non. Parce qu'elle est morte. »
D'abord, il y a l'aîné, lui qui est comme un melon, lui qui a un gros nez, lui qui sait plus son nom, monsieur, tellement qu'il boit, ou tellement qu'il a bu, qui fait rien de ses 10 doigts, mais lui qui n'en peut plus, lui qui est complètement cuit et qui se prend pour le roi, qui se saoule toutes les nuits, avec du mauvais vin, mais qu'on retrouve matin dans l'église qui roupie, raide comme une saillie, blanc comme un cierge de Pâques, et puis qui balbutie, qui a l'œil qui divague. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas, monsieur, on ne pense pas. On prie. Et puis, il y a l'autre, des carottes dans les cheveux, qui a jamais vu un peigne, qui est méchant comme une teigne, même qui donnerait sa chemise à des pauvres gens heureux, qui a marié la Denise, une fille de la ville, enfin, d'une autre ville, et que c'est pas fini, qui fait ses petites affaires, avec son petit chapeau, avec son petit manteau, avec sa petite auto, qu'aimerait bien avoir l'air, mais qu'a pas l'air du tout. Faut pas jouer les riches quand on n'a pas le sou. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne vit pas, monsieur. On ne vit pas. On triche. Et puis, il y a les autres. La mère qui ne dit rien, ou bien n'importe quoi. Et du soir au matin, sous sa belle gueule d'apôtre et dans son cadre en bois, il y a la moustache du père qui est mort d'une glissade et qui regarde son troupeau bouffer la soupe froide. Et ça fait des grands... Et ça fait des grands... Et puis il y a la toute vieille qui en finit pas de vibrer et qu'on attend qu'elle crève vu que c'est elle qui a l'oseille et qu'on n'écoute même pas ce que ces pauvres mains racontent. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne cause pas, monsieur. On ne cause pas. On compte. Et puis...
puis il y a Frida, qui est belle comme un soleil, et qui m'aime pareil que moi j'aime Frida. Même qu'on se dit souvent qu'on aura une maison avec des tas de fenêtres, avec presque pas de mur, et qu'on vivra dedans, et qu'il fera bon y être, et que si c'est pas sûr, c'est quand même peut-être parce que les autres veulent pas, parce que les autres veulent pas. Les autres, ils disent comme ça qu'elle est trop belle pour moi, que je suis tout juste bon à égorger les chats. J'ai jamais vu de chat, ou alors bien longtemps, ou bien j'ai oublié, ou ils sentaient pas bon. Enfin ils veulent pas, enfin ils veulent pas. Parfois, quand on se voit, semblant que c'est pas exprès, avec ses yeux mouillants, elle dit qu'elle partira, elle dit qu'elle me suivra. Alors pour un instant seulement, alors moi je la crois, monsieur, pour un instant seulement, parce que chez ces gens-là, monsieur, on ne s'en va pas, on ne s'en va pas, monsieur, on ne s'en va pas. Mais il est tard, monsieur. Il faut que je rentre chez moi.
Vous avez bien sûr reconnu « Ces gens-là » de Jacques Brel, une chanson qui reflète bien l'ambiance de l'extrait que tu nous as lu, et bien lu, Michel.
Il y a trop de gens qui ne savent pas ouvrir une bouteille de vin.
Oui, eh ben, le pinard, c'est pas interdit que je sache.
Je suis aujourd'hui avec Jean-Martin Dutour, président de l'AOP Chinon, puisque Mathilde Bosseau nous a conseillé un Chinon rouge. Bonjour Jean-Martin.
Bonjour.
Alors vous êtes président de l'AOP Chinon, mais vous êtes aussi viticulteur.
Et, voire même vigneron. Vigneron, c'est une petite distinction entre les deux. C'est-à-dire que le vigneron va jusqu'à la bouteille et va jusqu'à ses clients. Parce que le viticulteur est un cultive du raisin.
Juste peut-être préciser ce que c'est l'AOP Chinon, le syndicat des vignerons.
En fait, dans le système français d'appellation d'origine contrôlée, les appellations sont toujours organisées par des syndicats locaux qui sont nommés ODG, c'est-à-dire organismes de gestion de leur appellation. Et voilà, et donc à Chinon, il y a un syndicat des vins qui s'appelle le syndicat des vins de Chinon et un conseil d'administration formé de vignerons de l'appellation qui ont pour mission de gérer cette appellation, son cahier des charges et de faire en sorte qu'il soit bien mis en œuvre par les vignerons.
Chinon, une magnifique ville historique installée au pied de sa forteresse, en bord de la Vienne et pas de la Loire, mais dans la vallée de la Loire. Alors c'est plutôt un vin de Loire ou un vin de Touraine ?
Le Chinon est en Touraine, fait partie de la grande famille des vins de Touraine et aussi des vins de Loire, puisque la Loire regroupe les vins de Touraine, d'Anjou, de Saumur, du Muscadet, et jusqu'au Massif Central. La Loire est grande. Le Chinon est un vin de Loire, principalement rouge, c'est la plus importante appellation de vin rouge de Loire, et nous cultivons à Chinon du Cabernet Franc.
Pour le rouge, c'est en plus le vin que nous avait conseillé Mathilde Bosseau. Personnellement, c'est un vin que j'apprécie pour sa légèreté. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais par rapport à nos vins du Sud plus élevés en alcool.
Effectivement, le Cabernet Franc à Chinon, dans le Val-de-Loire, permet de faire des vins rouges. Alors, on trouve une grande variété de vins, des plus légers à des vins plus tanniques, taillés pour la garde. Mais effectivement, par rapport à ce qu'on peut retrouver dans le Sud de la France, ils ont un plus léger en alcool. Et sûrement un peu plus léger en tanin, mais il y a une grande variété de vins produits avec du Cabernet Franc.
C'est un vin en fait qu'on peut boire à toutes les étapes du repas.
Oui, alors cette légèreté, cette fraîcheur permet de l'associer à pas mal de plats. Mais c'est les sommeliers qui en parlent le mieux. Mais ça en fait un compagnon idéal de la table.
Vous voudriez rajouter quelque chose pour donner à nos auditeurs et auditrices envie de goûter le Chinon rouge ?
Le mieux, c'est d'essayer et de venir sur place. Les vignerons dans le Val-de-Loire, et à Chinon en particulier, aiment beaucoup recevoir leurs clients. Et il y a une grande tradition d'accueil et de nombreuses caves sont ouvertes et on peut déguster tout ce qu'on veut, de nombreux vins, et on sera toujours bien accueillis à Chinon.
Bah écoutez, moi j'étais l'an dernier et effectivement, j'y ai été bien accueilli et Chinon est une ville magnifique et les bords de Vienne également, même si l'année dernière, un peu comme cette année, c'était en cru. Je ne sais pas si vous avez vécu les crues aussi, non peut-être.
Comme la Vienne sort souvent de son lit, on a l'habitude.
Jean-Martin, je vous remercie et puis on va aller boire un petit verre de rouge Chinon conseillé par Mathilde Bosseau. Merci à vous.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir. On se rapproche de la fin de ce 10e chapitre du tome 3 de Polar Vin et Compagnie. On rappelle les ateliers écriture de l'association Cap Polar Sud-Aveyron qui continue. Les prochains rendez-vous le 7 et le 21 mars. 9h30 au Créa, salle de la galerie. Donc il suffit d'être adhérent, mais vous pouvez adhérer sur place. Vous pouvez vous présenter donc les 7 et 21 mars au Créa à 9h30. Vous serez bien accueillis. Voilà, on se quitte, 10e chapitre se ferme, rediffusion mardi prochain. Dans 15 jours, une émission plus ordinaire et dans un mois, on retrouvera une autrice, candidate au prix Robin Cook, c'est Sophie Demange pour son livre « Les Bouchères ». Vous pouvez également retrouver Polar Vin et Compagnie en podcast sur radiolarzac.org.